une question dont la réponse en surprendra plusieurs. Est-ce que Dieu est trop bon pour envoyer des gens en enfer? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui nous amènera à mieux connaître Dieu aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que le dernier livre de la Bible nous enseigne réellement dans plusieurs sujets des plus intéressants. Allons voir ensemble ce que le livre de l'Apocalypse a en réserve pour nous aujourd'hui. Voici les questions qu'on va lui poser. Les humains ont-ils tous une tendance en eux qui les pousse à désobéir à Dieu? La mort a-t-elle toujours existé? Existera-t-elle toujours? Quels sont les signes du début de la grande tribulation? Y aura-t-il des gens qui seront mis à mort à cause de la parole de Dieu pendant la grande tribulation? Y aura-t-il des cataclysmes naturels pendant cette période-là? Qu'est-ce que ça signifie quand un enseignement est répété plusieurs fois dans la Bible? Est-ce que Dieu est trop bon pour envoyer des gens en enfer? D'où vient le fait que Jésus est comparé à un agneau dans la Bible? Est-ce que cet agneau peut se mettre en colère? Demeurez des nôtres. Le Seigneur est sur le point de répondre à chacune de nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Merci Seigneur, tu as la réponse à toutes nos questions. Même on peut dire que tu es la réponse à tout. Aide-nous à tourner nos regards vers toi, à tourner nos cœurs vers toi aujourd'hui pour entendre ta merveilleuse parole. Transforme-nous, Seigneur. Amène-nous à l'image de Jésus. C'est en son nom qu'on te le demande. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, nous avons terminé notre dernière émission en soulignant le fait que l'homme avait été créé par Dieu pour vivre éternellement. La mort est la conséquence du péché, de la désobéissance de l'homme envers Dieu. Cette attitude remonte au tout début de l'histoire de l'humanité avec Adam et Ève. Une maladie mortelle. À partir de là, le péché et la mort se sont transmis de génération en génération, comme l'indique Romains chapitre 5, verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La maladie spirituelle du péché fait encore ses ravages aujourd'hui. Nous naissons tous pécheurs. En d'autres mots, nous avons tous en nous une tendance qui nous pousse à désobéir à Dieu. Si vous avez des enfants, vous savez qu'il suffit qu'on leur interdise quelque chose pour que cela les attire. L'apôtre Paul parle de cet attrait du défendu dans Romains chapitre 7, verset 7. La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Pourtant, cette loi de Dieu, résumée dans les 10 commandements, est bonne. Celui qui observe la loi de Dieu est assuré de vivre heureux. Mais le péché, cette tendance à la rébellion contre Dieu, nous pousse à la désobéissance et par conséquent à la mort. Par nature, nous sommes soumis à la mort, mais Jésus-Christ est intervenu et par sa victoire sur la mort, nous sommes libérés de cet esclavage. Jésus-Christ, le deuxième Adam, fait du croyant une nouvelle création. Lui seul peut nous donner la vie éternelle. Comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, versets 12 et 13. « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Une mort sans frein. Or, pendant la grande tribulation, la mort sévira avec encore plus de vigueur. Et sans Jésus-Christ, aucun homme ne survivrait à cette sombre période, comme notre Seigneur l'annonce lui-même dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, le verset 22. « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » La mort n'a donc pas toujours existé. Elle a débuté avec la désobéissance de l'homme, mais un jour, elle n'existera plus, comme nous le verrons plus tard dans Apocalypse, chapitre 20, le verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'apôtre Paul abonde dans le même sens dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 26. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Non seulement le croyant est-il délivré dès maintenant de la culpabilité du péché, mais il sera plus tard délivré de ses conséquences, comme nous le verrons plus loin dans Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mais, d'ici là, la guerre, la famine, les maladies, les bêtes sauvages décimeront un quart de la population de la terre pendant la grande tribulation. Cela est également annoncé dans Ézéchiel chapitre 14, versets 21 et 22. Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera. Le cheval verdâtre représente donc la peste et les épidémies qui éprouveront la terre entière. Et bien sûr, Dieu pourra utiliser la folie humaine pour accomplir cette fin par le biais d'une guerre bactériologique. Écoutons le docteur Frank Holman, chef du département de bactériologie de l'Université du Tennessee. Bien qu'une bombe atomique puisse détruire la majeure partie de la population d'une grande ville, la méthode bactériologique pourrait très bien l'éliminer complètement en moins d'une semaine. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse apparaîtront donc en séquence ordonnée et prédites en de nombreux endroits dans la Bible. Jésus-Christ parle de cette séquence, mais sans parler des chevaux, ni des épidémies, dans Matthieu, chapitre 24, versets 5 à 8. « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Cela correspond au cheval blanc, celui de l'Antéchrist. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Nous reconnaissons le cheval roux. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. La famine correspond au cheval noir. Ce passage se conclut ainsi au verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ces événements seront les signes du début de la grande tribulation. Quant au tremblement de terre, il se produira un peu plus tard, à l'ouverture du sixième sceau. Mais, entre le début et le milieu de la grande tribulation, nous trouvons le bref interlude suivant. L'ouverture du cinquième sceau. La prière des martyrs. Lisons ensemble Apocalypse, chapitre 6, les versets 9 et 10. « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Cet autel est situé dans les cieux, là où Jésus-Christ a offert son sang pour les péchés du monde, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 9, versets 22 à 24. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Les sacrifices faits sur la terre sont donc des images, ou imitations des choses célestes. De la même manière, le temple de Jérusalem et son sanctuaire étaient des reproductions des choses célestes. Jésus-Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par des mains humaines, mais dans le ciel pour comparaître devant Dieu et intercéder en notre faveur. Or, ce n'est pas du sang d'animal qu'il a offert en sacrifice, mais son propre sang. Et dans ce sanctuaire céleste, l'apôtre Jean voit aussi les âmes des martyrs de l'Ancien Testament. Jésus parle d'eux dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, les versets 50 et 51. Je vous en fais la lecture. « Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. » Pendant la grande tribulation, d'autres martyrs seront mis à mort à cause de la parole de Dieu. Pendant les temps difficiles, le monde se cherche des boucs émissaires à blâmer. Des Israélites ont souvent été et seront encore parmi les accusés. Tous ces martyrs plaideront justice à cause de leur sang répandu en s'appuyant sur la loi de Dieu. Poursuivons notre lecture dans l'Apocalypse, chapitre 6, le verset 11. « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » En d'autres mots, les martyrs de la grande tribulation iront rejoindre leurs frères ayant vécu au temps de l'Ancien Testament. L'ouverture du sixième sceau. L'avènement du jour de colère. Apocalypse, chapitre 6, cette fois les versets 12 et 13. « Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et... il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. » Cette partie de la grande tribulation commence par un grand tremblement de terre. Encore une fois, les événements décrits ici n'appartiennent pas à notre passé, ni à notre présent, même si nous connaissons de nos jours une augmentation d'activité sismique. La grande tribulation est ponctuée de catastrophes et cataclysmes naturels. Et encore une fois, la description des événements recoupe d'autres extraits de la Bible. Par exemple, le prophète Joël, chapitre 2, verset 31. « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Dans une éclipse, la lune s'interpose entre le soleil et la terre, et puisque la lune ne fait que refléter la lumière du soleil, la face de la lune que nous pouvons voir pendant une éclipse est totalement noire. Mais ici, le soleil est obscurci, pendant que la lune est rouge écarlate. Il ne s'agit donc pas simplement d'une éclipse. La description de Jésus va dans le même sens. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 29, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » On trouve d'autres passages décrivant le jour de la colère dans Joël, chapitre 3, verset 9 à 17, Ésaïe, chapitre 13, verset 9 à 13, ainsi que chapitre 34, verset 1 à 4, et finalement dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 20. Le texte nous dit « Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. » Une figue verte est un fruit qui n'est pas encore mûr. Habituellement, ce sont les fruits mûrs qui tombent au sol. Mais ici, un vent violent les fait tomber avant leur terme. Nous avons vu que le cheval verdâtre allait faire mourir les gens avant leur vieillesse. Ici, la chute des étoiles se joint à celle des hommes sous le coup de la colère de Dieu. Au début du XXe siècle, ce genre de vision apocalyptique suscitait les moqueries. On accusait les chrétiens de catastrophisme, car Darwin prétendait que l'évolution des espèces s'était effectuée graduellement. Depuis, cette assertion a été reconnue comme fausse par l'ensemble de la communauté scientifique. La Bible, elle, n'a jamais eu à revenir sur ses positions après plus de 20 siècles, car elle est la parole de vérité du Dieu immuable. Lisons Apocalypse, chapitre 6, verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Rappelons-nous qu'à l'époque de l'apôtre Jean, un livre était un parchemin écrit à la main et ensuite roulé. Ce verset recoupe Nahum, chapitre 1, verset 5. Les montagnes s'ébranlent devant lui, et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Quand un enseignement est répété plusieurs fois dans la Bible, cela signifie qu'il constitue un élément important. Il le sera une autre fois dans Apocalypse, chapitre 20, verset 11, quand Dieu jugera les impies. Puis, « Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Mais, pour le moment, continuons la description de la grande tribulation, la colère de l'agneau. Apocalypse, chapitre 6, verset 15 à 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Les gens qui ne connaissent pas vraiment Dieu pensent souvent qu'il est trop bon pour envoyer même les plus méchants hommes en enfer. Ils veulent bien croire que le ciel existe, mais pas l'enfer. En conséquence, ils sont relativement certains d'aller au ciel après leur mort. Mais à vrai dire, ils n'ont pas réfléchi sérieusement à la question. Cette conception de Dieu ne ressemble pas beaucoup à la description qu'il nous livre de sa propre personne dans sa parole contenue dans la Bible. En réalité, Dieu nous a créés et il s'attend à ce que nous lui obéissions. Depuis plusieurs millénaires, il nous a clairement exprimé sa volonté, premièrement par la voix des prophètes de l'Ancien Testament, et ensuite en envoyant son propre Fils sur la terre. Depuis bientôt 2000 ans, il attend que les hommes lui rendent la place qui lui est due. Malgré cette patience, la plupart d'entre eux restent indifférents à ses appels ou affichent carrément leur mépris. Mais un jour, cette patience arrivera à son terme. Ce sera alors le jour de colère de l'Éternel. Assez curieusement, ce jour-là, les hommes rebelles préféreront parler aux rochers plutôt que de se tourner vers Dieu. Ils prieront les montagnes et les rochers de s'écrouler sur eux. Ils préféreront cela plutôt que d'être confrontés à la colère de l'agneau, car le grand et redoutable jour de la colère de Dieu sera venu. L'expression « la colère de l'agneau » semble paradoxale. Généralement, les agneaux sont reconnus pour leur douceur. Et effectivement, quand Jésus-Christ est venu marcher parmi nous pour la première fois, il y a environ 20 siècles, il a fait preuve d'une grande douceur. Il s'est comporté envers ceux qui le persécutaient comme le prophète l'avait prédit 5 siècles avant sa venue. Entre autres, c'est ce que nous lisons chez le prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Dans ce contexte, la colère future de l'agneau peut sembler surprenante. Pourtant, la Bible est remplie de paradoxes. Un paradoxe est une proposition qui semble contraire à l'opinion reçue. Parmi les paradoxes les plus connus de l'enseignement de Jésus, nous trouvons celui-ci dans les 4 évangiles. Nous prendrons la version de Matthieu, chapitre 10, verset 39. « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » En d'autres mots, celui qui conservera sa vie en vivant par et pour lui-même, sans aucun égard pour la volonté de Dieu, la perdra. Par contre, celui qui perdra sa vie à cause de moi, en recevant Jésus-Christ par la foi et en consacrant sa vie à Dieu, il la retrouvera. Car Jésus le ressuscitera. Et en ressuscitant lui-même, Jésus nous a prouvé que sa puissance était plus grande que celle de la mort, et qu'il pouvait ainsi ressusciter ceux qui appartenaient à son Père. Mais ceux qui refusent de répondre à ses appels devront un jour faire face à sa colère. À partir d'Abel jusqu'à Jean le Baptiste, le Seigneur Jésus est décrit comme un agneau. Nous verrons que plus tard, dans Apocalypse, chapitre 13, verset 8, l'apôtre Jean le décrit comme l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. En d'autres mots, Dieu n'a pas choisi un agneau parce qu'il possédait les caractéristiques de Jésus-Christ. Dieu a créé cet animal afin de représenter son Fils Jésus-Christ. Car Jésus-Christ existait avant tout animal. Il est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Le Seigneur Jésus-Christ possède les qualités de l'agneau, ou plutôt, l'agneau possède certaines des qualités de Jésus-Christ. Il est doux, et Jésus-Christ se décrit comme un être doux. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29, nous lisons « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il est aussi gentil, comme l'enseigne l'Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 14. Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il n'est pas féroce. Vous verrez parfois un écriteau disant « Prenez garde aux chiens », mais vous ne verrez jamais un écriteau disant « Prenez garde à l'agneau ». Il est aussi humble. Quand il marchait parmi nous, il s'est abaissé à laver les pieds de ses disciples. Une besogne réservée aux esclaves. Il était comme le frais parfum d'une fragile et charmante fleur. Même les non-croyants sont fascinés par sa vie. Les hommes ont voulu dater leur calendrier en se référant à sa naissance, avant ou après Jésus-Christ, même si cette date s'est avérée inexacte de quelques années. Que vient faire la colère dans ce charmant tableau? La colère n'est-elle pas étrange dans la personne de Dieu? Dieu aime le bien, et il déteste le mal. Oh, sa haine n'est pas comme la nôtre! Elle n'est pas vindicative, mais il déteste le mal, et sa colère se porte sur ceux qui font le mal, comme il est écrit dans la lettre de Paul adressée aux Romains, chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Quand Jésus marchait parmi nous, il se mettait parfois en colère contre les pharisiens qui, tout en prétendant servir Dieu, méprisaient leurs semblables. Il les traitait de sépulcres blanchis, car ils paraissaient immaculés de l'extérieur, mais ils étaient pourris à l'intérieur. Et un jour, la patience de l'agneau laissera place à sa colère. Et si vous pensez qu'il est trop gentil pour punir le péché, méditez sur ces paroles du psaume 2, versets 10 à 12. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voilà la bonne nouvelle. C'est tous ceux qui se confient en Jésus-Christ sont épargnés de la colère de Dieu à venir. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Apocalypse, chapitre 7, le verset 1. À vous tous, je vous souhaite une bonne et agréable lecture.
Merci beaucoup, Régent. J'aime tellement tout ce que tu as dit au sujet de Jésus aujourd'hui, alors que tu le décrivais comme étant l'agneau de Dieu. Mes amis, Jésus, l'agneau, possède tellement de beaux attributs. On a vu aujourd'hui qu'il est gentil, qu'il est humble, qu'il est doux. Et on a vu cette référence que j'aime tant dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, verset 7, où il est écrit qu'il a été maltraité et opprimé et qu'il n'a pas ouvert la bouche. semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et Ésaïe répète qu'il n'a pas ouvert la bouche. Quel exemple il est pour nous. Ce n'est pas que je me réjouisse du fait que Jésus a été maltraité comme ça, mais je me réjouis qu'il m'ait tellement aimé qu'il a accepté d'être traité comme ça, afin qu'il puisse payer la dette de mon péché, parce que moi-même, je n'aurais pas pu payer, parce que ça prenait un agneau sans tache pour que Dieu le Père accepte le sacrifice. Et on sait que Jésus est le seul qui soit venu sur cette terre sans jamais pécher. La Bible nous l'enseigne clairement. Et Régent et moi le mentionnons souvent au cours des émissions. C'est tellement important. Mais mon ami, on a vu aussi au cours de cette émission que cet agneau, Jésus, va un jour exercer sa colère sur ceux qui font le mal et qui refusent de se repentir. Justement, Régent a mentionné que les gens qui ne connaissent pas vraiment Dieu pensent souvent qu'il est trop bon pour envoyer même les plus méchants en enfer. Ils veulent bien croire que le ciel existe, mais pas l'enfer. Mais on a vu aujourd'hui que Dieu nous a créés et qu'il s'attend à ce que nous lui obéissions, qu'on lui rende la place qui lui est due. Mais plusieurs restent indifférents à ses appels ou affichent carrément leur mépris. Mais un jour, cette patience de Dieu arrivera à son terme. Ce sera alors le jour de la colère de Dieu. Mon ami, notre but n'est pas de te faire peur, mais Dieu veut qu'on sache ceci à son sujet, alors qu'il est encore temps de nous repentir. Sais-tu ce que c'est la repentance? Eh bien, c'est un changement radical de direction à l'égard du péché qui fait qu'on ne veut plus le commettre. Alors, mon ami, tu te sens peut-être incapable de ne plus vivre dans le péché, mais mettons les choses dans le bon ordre. Premièrement, reconnais tout simplement que tu es un pécheur, que tu es une pécheresse perdue, et demande à Dieu de te pardonner. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle, puisqu'il a payé ta dette en entier en mourant sur la croix. Si tu crois en lui de tout ton cœur, tu seras sauvé, et tu recevras par le fait même son Esprit Saint qui viendra habiter en toi. Et il te donnera sa puissance pour te détourner du péché et vivre par lui et pour lui jusqu'au jour où tu quitteras cette terre pour habiter avec lui éternellement. Alors mon ami, repens-toi. Jésus a reçu ta condamnation pour lui. Ne prends pas le risque de passer l'éternité loin de sa face, dans cet enfer où il ne veut pas que tu ailles. Reçois Jésus maintenant. Reçois-le comme ton sauveur, comme ton Seigneur, qu'il puisse devenir un maître pour toi, le seul maître, celui que tu vas suivre jusqu'au jour où tu vas aller passer l'éternité avec lui au ciel. Mon ami, je t'en supplie, reçois Jésus maintenant.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.